Vous écoutez On lit pour vous.
Québec présente un premier plan gouvernemental pour renforcer le droit à l'avortement. Un texte de Catherine Desautels de la presse canadienne, paru le 18 novembre 2024 dans Le Nord-Côtier. Pour améliorer l'accès aux services d'interruption de grossesse dans les régions où le temps d'attente est élevé et pour contrer le manque d'informations fiables sur le sujet, Québec présente un premier plan gouvernemental sur l'accès à l'avortement. Le gouvernement injectera 7,5 millions de dollars jusqu'en 2027 afin de concrétiser les 28 mesures de son plan. La ministre responsable de la condition féminine du Québec, Martine Biron, en a fait l'annonce lundi matin à Montréal. Le plan prévoit notamment de développer de nouveaux points de service d'accès à l'avortement, dont un dans la ville de Québec. La ministre Biron n'a pas précisé quand exactement ce nouveau point de service sera opérationnel, mais elle a indiqué que le gouvernement prévoyait qu'il le soit d'ici 2027. Dans certaines régions du Québec, l'accès à un service d'interruption de grossesse peut prendre jusqu'à 5 semaines. Pour améliorer ce délai, le gouvernement compte mettre sur pied un service de télésanté, mais il misera surtout sur la pilule abortive pour un meilleur accès. La pilule abortive est disponible au Québec depuis 2017 et elle est utilisée dans 17 % des avortements. En Ontario, elle est utilisée dans 32 % des avortements et ce taux grimpe à 72 % en France. Citation « Ce qui veut dire qu'elle est sous-utilisée au Québec », a commenté Mme Biron. « Peut-être qu'on pourrait l'utiliser davantage et justement libérer certaines salles opératoires en région. » L'idée est de faciliter l'accès à ces soins tout en respectant le droit de choisir des femmes. Fin de citation. Madame Biron a également affirmé que la désinformation menace le libre choix. Elle a indiqué que des activités de communication et de formation seront menées par l'entreprise du service 811, des CLSC et du site web québec.ca/avortement pour que les personnes aient accès à des renseignements neutres et véridiques. Québec renforcera aussi le financement des organismes pro-choix partenaires du gouvernement, SOS Grossesse Québec, SOS Grossesse Estrie, Grossesse Secours et Fédération du Québec pour le planning des naissances. L'annonce rappelle la fragilité des droits des femmes. Il y a 2 ans, aux États-Unis, la Cour suprême renversait le jugement Roe contre Wade, permettant ainsi aux États du pays de bannir ou de restreindre l'accès à l'avortement. Madame Biron a reconnu cette menace et a déclaré que cette « onde de choc » aux États-Unis a créé beaucoup d'incertitudes. Elle a lancé le message que le gouvernement du Québec protège le droit des femmes de choisir de poursuivre ou d'interrompre une grossesse. Citation « C'est un sujet sensible et tabou, l'avortement, mais il faut savoir qu'une femme sur 3 aura recours à l'avortement au Canada une fois dans sa vie. » Fin de citation, a indiqué la ministre. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, s'est aussi voulu rassurant sur le droit de choisir des femmes. Il a écrit dans son mot d'introduction du plan gouvernemental que, citation, « en matière de droit à l'avortement, notre réseau de la santé et des services sociaux est uni derrière les femmes québécoises pour qu'elles demeurent libres de leur choix. » Fin de citation. Le plan d'action actuel du gouvernement du Québec n'envisage pas la gratuité des contraceptifs. Madame Biron a fait savoir qu'il y a des discussions avec le gouvernement fédéral sur cet enjeu. Reconnaissant que ces négociations peuvent être longues, Madame Biron a dit qu'elle était devant un dilemme, celui d'aller de l'avant avec un plan sur l'interruption de grossesse ou d'attendre que débouchent les discussions sur la contraception avec le fédéral. Elle a mentionné que le plan était un premier pas et que les travaux sur la contraception allaient se poursuivre. La Fédération du Québec pour le planning des naissances, FQPN, s'est réjouie de l'annonce de la ministre Biron. Citation « Nous avons hâte de participer et de veiller à la mise en œuvre du plan d'action. » Fin de citation a déclaré dans un communiqué Jess Legault, coordonnatrice générale et responsable du dossier avortement à la FQPN. L'accès libre et gratuit à l'avortement et à la contraception pour toutes les femmes, les hommes trans et les personnes non binaires de la province est un enjeu prioritaire de la FQPN. en plus d'améliorer l'accès aux services, elle souhaite une diminution du nombre de déplacements nécessaires pour chaque avortement. C'était « Québec présente un premier plan gouvernemental pour renforcer le droit à l'avortement », un texte de Catherine Desautels de la Presse canadienne, paru le 18 novembre 2024 dans Le Nord-Côtier.
Le luxe d'une éolienne résidentielle, un texte de Mathieu Perrault, paru le 1er décembre 2024 dans la presse. Albert Belmar, un lecteur, demande « Existe-t-il des éoliennes résidentielles si l'on vit dans une région à grand vent? » Ça existe. Mais c'est assez cher par rapport à Hydro-Québec, aux panneaux solaires ou encore aux génératrices en cas de panne. Des entreprises ont pourtant déployé beaucoup d'efforts pour mettre au point des turbines résidentielles. Certaines turbines urbaines ont notamment été testées, mais au bout du compte, elles ont été jugées trop onéreuses. Une éolienne résidentielle, c'est possible. Mais il faut compter environ 10 000 $ par kilowatt, explique Bianca Vidiano, ingénieure mécanique à Polytechnique Montréal. Selon la rentabilité moyenne des parcs éoliens, telle que la calcule le gouvernement américain, il faudrait compter 5 à 6 kilowatts pour alimenter une maison au Québec, soit de 50 000 à 60 000 $. Mais cette somme peut facilement être 10 fois plus élevée si une éolienne résidentielle est dans un endroit où le vent est moins favorable. C'est un projet qui est plus proche d'un hobby, selon l'ingénieur Bianca Vidiano. Il n'y a pas de raison économique, particulièrement au Québec, où l'électricité n'est pas chère. Ceux qui veulent diminuer leur empreinte carbone vont dépenser moins avec l'énergie solaire. Ceux que l'éolienne résidentielle intéresse doivent avoir un grand terrain et ériger l'éolienne assez haut. Pour une petite éolienne, par exemple, il faut au moins 18 mètres de hauteur. Le vent est très lent près du sol, explique Mme Vidiano. Pour avoir du vent fort et constant, il faut de la hauteur. Il faut aussi considérer la source du vent. S'il vient généralement d'une seule et même direction, une éolienne à pales, comme une hélice d'avion, convient. Mais s'il change souvent de direction, il faut une éolienne à axe vertical. Les éoliennes à axe vertical sont moins efficaces, précise toutefois Mme Vidiano. Le cas de Portland. Une installation très médiatisée à Portland, en Oregon, a montré les limites des éoliennes urbaines. À son inauguration en 2009, l'immeuble 12 West, qui compte 22 étages, comportait 4 éoliennes de 14 mètres. Elles devaient générer 9000 kWh par année, assez pour alimenter un ou deux appartements. Après quelques années, le Laboratoire des énergies renouvelables du gouvernement américain, NREL, a révisé cette performance à 5500 kWh par année. Et durant la pandémie, les turbines ont été discrètement enlevées de 12 West parce qu'elles coûtaient trop cher en entretien, selon une étude publiée cet automne dans la revue scientifique Renewable and Sustainable Energy Reviews. Auparavant et depuis, des éoliennes ont été intégrées à des projets de luxe comme le World Trade Center de Bahreïn, la Shanghai Tower en Chine ou la tour d'appartement Cor à Miami, énumère Renewable and Sustainable Energy Reviews. Vous avez une question scientifique? Écrivez-nous. En savoir plus, 4000 mégawatts, capacité de production éolienne au Québec, source Hydro-Québec. 16 000 MW, Capacité de production éolienne au Canada, source Ressources naturelles Canada. C'était Le luxe d'une éolienne résidentielle, un texte de Mathieu Perrault, paru le 1er décembre 2024 dans la presse.
Tout. Et si c'était la coqueluche? Un texte de Maude Dionne, paru le 14 novembre 2024 dans Québec Science. L'automne vient souvent avec son lot de maladies, de rhumes, de quintes de toux. Mais en 2024, un microbe habituellement discret revient en force. Et si votre toux persistante était due à la coqueluche? Depuis des semaines, mes plages de consultation sans rendez-vous sont occupées en grande partie par des personnes qui toussent. Denise me consulte ce jour-là pour de la toux qui la fait vomir. Cette toux avait commencé comme lors d'un banal rhume, mais ma patiente tousse maintenant tellement qu'elle en vomit quasiment tous les jours. Ça commence à faire. Première étape, déterminer les diagnostics possibles. Dans le contexte actuel, cela pourrait être une toux post-COVID-19, une pneumonie ou une revenante, la coqueluche. Elle a justement frappé fort en 2023 dans mon coin de pays, l'Estrie. Cette maladie cyclique connaît des pics d'activité tous les 2 à 5 ans. Mais les mesures sanitaires liées à la pandémie de COVID-19 ont fait baisser de manière importante l'incidence de la coqueluche en 2020 et en 2021. Sans trop de surprise, la maladie revient en force. Denise tousse depuis 2 semaines. Ses symptômes ont commencé par une congestion nasale, une toux légère et les yeux qui coulent. Avec la toux qui s'est intensifiée, l'hypothèse de la coqueluche se concrétise. Surtout que ma patiente s'occupe occasionnellement de ses petits-enfants qui sont souvent malades à cause de virus ramenés de la garderie. Pour confirmer le diagnostic, j'effectue un prélèvement nasopharyngé, un petit récurage de son nez, directement dans mon bureau. Le verdict tombe quelques jours plus tard. Le prélèvement contient la bactérie Bordetella pertussis, responsable de la coqueluche. « Mais j'ai pourtant été vacciné, s'étonne Denise. Ce n'est pas bon à vie, ce vaccin-là. » L'efficacité du vaccin est estimée à 85. Il n'empêche pas l'apparition de la maladie, mais plutôt les complications associées comme la pneumonie. Toutefois, son efficacité diminue progressivement dans les 10 ans suivant la vaccination initiale et la dernière dose est normalement administrée à l'adolescence. Côté traitement, il faut commencer les antibiotiques dans les 3 premières semaines suivant le début de la toux pour diminuer la durée de contagion. Il est encore temps pour Denise. Elle devra aussi protéger sa famille en limitant ses contacts pendant les 5 jours suivant le début de la prise d'antibiotiques. Après cela, le risque de transmission disparaît. Par contre, le traitement ne fait pas grand-chose pour la toux. Il faudra malheureusement prendre son mal en patience. Denise s'inquiète. Comment protéger ma fille enceinte de 6 mois et son futur bébé? Bonne question. On le sait, ce sont les nourrissons qui sont les plus à risque. La quasi-totalité des décès liés à la maladie, tout de même rare, concerne des enfants de moins de 3 mois. Depuis quelques années, on recommande donc aux femmes enceintes de recevoir un rappel du vaccin entre la 26e et la 32e semaine de grossesse, ce qui permet aux anticorps d'être transmis au bébé par le placenta. Le nouveau-né est alors protégé dès la naissance jusqu'à sa propre vaccination à l'âge de 2 mois. Je suggère à Denise d'en parler à sa fille, étant donné l'augmentation des cas de coqueluche en 2024. Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux, depuis début 2024, le Québec a déclaré environ 15 000 cas de coqueluche contre seulement 20 cas en 2021. La majorité des personnes touchées sont les jeunes de 10 à 14 ans, 28 % des cas. Dans certains cas, la prise en charge d'une personne va au-delà de ses seuls symptômes. Il s'agit aussi de la conseiller pour s'assurer de protéger au mieux son entourage et briser la chaîne de contagion. C'était Tout et si c'était la coqueluche, un texte de Maud Dionne paru le 14 novembre 2024 dans Québec Science.
Hydro-Québec souhaite encore ériger un poste de 315 000 volts devant la gare d'Autocar. Un texte de Jean-François Nadeau paru le 3 décembre 2024 dans Le Devoir. Hydro-Québec ne partage pas du tout la lecture alarmiste des 7 figures de la société québécoise qui dénoncent le projet controversé consistant à ériger un imposant édifice industriel destiné à abriter un poste de 315 000 volts sur les terrains de la Grande Bibliothèque, juste devant la gare d'Autocar de Montréal. Par la voix de Graham Fox, son vice-président aux affaires publiques, la Société d'État dit s'étonner des conclusions catégoriques et fatalistes publiées dans les pages du Devoir le 3 décembre 2024. Lise Bissonnette, ancienne directrice de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, l'urbaniste Gérard Baudette, l'architecte Félix Lambert, l'ancienne ministre de la Culture Christine Saint-Pierre, le dramaturge Michel-Marc Bouchard, l'historien Yves Gingras et l'archiviste Carole Couture dénoncent ce projet qui, selon eux, menace le quartier et ses institutions s'il est conduit en ce lieu. Que répond Hydro-Québec? Elle réaffirme qu'un concours d'architecture rendra ce projet enviable. Pour relever le défi, nous allons mener un concours d'architecture. Nous avons confiance que nos talents québécois sauront innover et proposer un projet dont nous serons doublement fiers. D'abord pour le rôle qu'il jouera dans la décarbonation, ensuite pour la qualité de son architecture. La Société d'État réitère en outre souhaiter, en construisant au milieu de cet espace vert, éviter les expropriations. Le terrain vierge sur lequel elle met la main comprend une partie des jardins aménagés et occupés par la Grande Bibliothèque. Par la voix de son porte-parole, Hydro-Québec affirme que, tout en travaillant en partenariat avec BANQ et la Ville de Montréal, elle s'engage à poursuivre la consultation du milieu afin de définir le meilleur projet possible pour la décarbonation et le voisinage. La ministre va de l'avant. « Nous en sommes au début de la réflexion et des discussions », indique la Société d'État. « Les plans du bâtiment ne sont pas conçus. On s'étonne donc des conclusions catégoriques et fatalistes publiées le 3 décembre dans ces pages. » En mêlée de presse à Québec, la ministre Christine Fréchette, responsable du dossier, a dit considérer que beaucoup de discussions avaient déjà eu lieu. « Il y a eu beaucoup de rencontres au cours des dernières années », a-t-elle déclaré. La députée Manon Massé, tout comme les opposants au projet publié par Le Devoir, fait observer au contraire qu'Hydro-Québec a agi jusqu'ici dans un secret relatif et que l'essentiel a progressé en catimini. « Moi, ce qui me fascine là, » indique Mme Massé, « est que ça fait pas longtemps qu'on arrive à avoir de l'information sur ce projet. » La députée a réitéré en mêlée de presse avoir proposé d'autres options à Hydro-Québec, mais que personne, en revanche, ne lui a jamais présenté d'études, d'explications valables ou de solutions réelles à des problèmes pourtant concrets pour le quartier. C'est aussi ce qu'affirment les signataires du manifeste contre ce projet publié dans les pages du Devoir. La ministre Fréchette indique aussi que c'est important qu'on ait quelque chose qui s'harmonise avec l'environnement, mais elle ajoute qu'il faut constater que la demande d'énergie, elle va croissant et qu'il faut répondre à cette demande. À titre de ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, mais aussi de responsable de la métropole et de la région de Montréal, elle n'a pas indiqué vouloir considérer d'autres scénarios que celui présenté par Hydro-Québec. Quelle image pour les visiteurs! À l'Assemblée nationale, la députée Manon Massé s'est demandé de son côté quelle image Montréal proposera à ses visiteurs qui transitent par la gare d'Autocar, située dans le quartier latin, si l'État accepte la construction tout juste devant, d'un imposant édifice industriel capable d'abriter un poste de 315 000 volts. La députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques maintient que cet emplacement n'est tout simplement pas le bon pour ce projet, tant pour l'avenir du quartier qu'elle représente que pour le Québec tout entier. C'est sûr que dans un endroit comme le quartier latin, où tu accueilles le Québec, soit à travers la gare d'autobus qui est là, ou la 747, la ligne de transport qui débarque les voyageurs de l'aéroport, ce que tu as, c'est un gros bloc industriel qui transforme de l'électricité. Sérieusement, il me semble que c'est ne pas avoir de dignité que d'édifier une chose pareille en ce lieu, a-t-elle indiqué devant les journalistes. À son sens, ce terrain doit être réservé à des fonctions sociales en continuité avec ce qui se trouve déjà dans les environs. C'est le seul terrain qui reste au cœur du centre-ville, observe l'élu solidaire. Manon Massé ajoute que, n'en déplaise à Hydro-Québec et au gouvernement, les gens du coin ne veulent pas du projet tel qu'il est présenté. Le vice-président aux affaires publiques d'Hydro-Québec conclut sa défense du projet controversé en disant ne pas savoir encore si ce poste électrique de grande envergure sera en partie souterrain ou en hauteur, ni s'il pourra être logé dans deux bâtiments distincts, comme l'a proposé la députée Manon Massé. Des discussions avec le milieu et les analyses de nos experts devraient y répondre, ajoute-t-il. La Société d'État indique qu'à terme, le projet sera soumis au processus du Bureau d'audience publique sur l'environnement. C'était « Hydro-Québec souhaite encore ériger un poste de 315 000 volts devant la gare d'Autocar », un texte de Jean-François Nadeau paru le 3 décembre 2024 dans Le Devoir.
Le duel culturel des nations au Québec. Un texte d'Emmanuel Lapierre, paru le 9 mars 2024 dans Le Devoir. La chronique de Jean-François Lisée, intitulée « Identité anti-québécoise », ayant fait réagir, j'aimerais préciser une petite chose. Le mépris des « Kebs », bien réel dans les écoles secondaires de la grande région de Montréal, ne tire pas sa source des communautés allophones. Pas la moindre goutte. Il existe à cause d'un duel. Le duel culturel des nations, nouveau concept en sciences humaines que j'ai forgé. En voici une très, très brève esquisse. Partout sur Terre, des nations dominantes tentent d'assimiler des nations dominées qui leur résistent en retour. Sauf exception, le désir d'assimilation d'une nation dominante ne s'exprime jamais clairement. Elle utilise le discours pour persuader la nation dominée qu'elle doit accepter d'elle-même son assimilation parce que sa culture serait inférieure, entre autres. Dans notre cas de figure, de nombreux jeunes allophones rejettent la culture québécoise en prétextant qu'elle serait moins intéressante que la leur, et même que toutes les autres. Ce refrain, je le connais bien. Certains de mes amis, certains membres de mon entourage et mon propre père, un Péruvien, le chantaient il y a 40 ans, avant les réseaux sociaux, Netflix et le reste donc. Le duel se déroule aussi entre les nations à l'échelle mondiale, mais nous n'avons pas la place pour en discuter ici. Ce n'est pas tout. Les jeunes Québécois, et les Québécois en général, dénigrent de plus en plus leur langue, leur musique, leurs films, leur culture. Aucune chanson québécoise en français ne figure au palmarès des 100 chansons les plus écoutées sur les plateformes musicales au Québec, rappelez-vous. On a su ça l'été dernier. Plusieurs allophones et francophones chantent à l'unisson l'infériorité culturelle du Québec. D'où ce refrain provient-il, croyez-vous? De notre nation dominante à tous, le Canada. Nous baignons en permanence dans une atmosphère aliénante. Nous intériorisons le message selon lequel la nation québécoise ne peut pas exister par elle-même, penser par elle-même, être libre. Mais le duel culturel des nations n'est pas une fatalité.
La nation dominée résiste et peut même contre-attaquer pour se libérer de son oppresseur. Ça ne fonctionne pas toujours. Mais dans notre cas, il suffirait d'y mettre l'énergie et les ressources nécessaires. Notre jeunesse, d'où qu'elle provienne, est ouverte. C'est le propre de la jeunesse. Qu'on la mette en contact avec des œuvres culturelles québécoises. Qu'on finance la culture pour vrai. Qu'on la valorise pour vrai. Ça presse. Que l'on réforme aussi encore les cours d'histoire au secondaire. Relan de conquête. Je peux vous raconter une anecdote? Il y a environ 3 ans, je remplaçais dans un cours d'histoire du Québec et du Canada de 4e secondaire. Nous passions quelques minutes sur la crise d'octobre, montre en main. Les manuels scolaires ne parlent d'ailleurs jamais bien longtemps des moments croustillants. Ça pourrait en réveiller quelques-uns. À un moment donné, un jeune fronce les sourcils en faisant sa lecture et lève la main. « Monsieur, pourquoi notre livre ne parle-t-il pas de la responsabilité du Canada dans la crise d'octobre? » Il ne devait pas avoir plus de 16 ans, ce garçon. Je pensais alors à la gigantesque armada de jeunes qui sont passés par notre système scolaire sans avoir l'occasion de prendre possession de leur histoire, sans jamais connaître le point de vue, j'oserais dire, local. Nous ne nous racontons pas notre propre histoire. Toujours passé par le Canada. Toujours le même message. Le Québec ne peut pas exister par lui-même. Alors voilà. Les jeunes allophones dont on parle ne méprisent pas les Québécois de longues racines. Ils ont intériorisé la même chose qu'eux. Un message qui vient de loin. Très loin. Les conquérants britanniques croyaient que, dans leur langue et leur culture, résidait le secret de la civilisation. Dans « La guerre de la conquête », son grand classique, Guy Frégaud rapporte à un moment donné des dépêches de journaux de 1755-1760 dans lesquelles des Anglais se félicitent de leurs droits individuels, de leur liberté de presse, toute relative à l'époque, mais c'est un autre sujet, et raille en même temps la France en la dépeignant comme un endroit digne du Moyen Âge. Après la conquête, cette propagande ne s'est tout simplement pas arrêtée. C'était le duel culturel des nations au Québec. Un texte d'Emmanuel Lapierre, paru le 9 mars 2024 dans Le Devoir.